La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour et bienvenue dans notre 28e émission de la Semaine de l'Art avec comme invité Sébastien Allard, directeur du département des peintures du Musée du Louvre. J'allais dire nouveau directeur parce que ça fait très peu de temps que vous êtes finalement nommé.
Oui, depuis le mois de juin.
Mois de juin, mais juin, juillet, août, septembre, oui, c'est fait 3 mois. Mais c'est, je pense, vous connaissez bien ce département puisque vous y étiez conservateur depuis assez longtemps. Et donc nous reviendrons avec vous sur la politique de ce département, aussi bien au Louvre que par rapport au musée de province en tant que grand département.
La chronique.
On ne sait exactement où en est la loi sur le patrimoine que voulait faire passer Aurélie Filippetti et dont le vote s'est vu reporté de mois en mois. Nous avons souvent dit sur la Tribune de l'Art que ce projet nous paraissait dangereux car il détricote des textes a priori très efficaces pour reconstruire une loi un peu bancale et qui, surtout, risque d'être amendé d'une telle manière que le Parlement finisse par la vider de sa substance et aboutisse à un texte laissant le champ libre aux démolisseurs. Nos lois patrimoniales ont en effet longtemps fait la preuve de leur efficacité, au moins pour ce qui concerne les monuments protégés. Elles servent d'ailleurs souvent d'exemple à l'étranger, et beaucoup de pays, notamment en voie de développement, s'en sont inspirés lorsqu'il s'est agi pour eux de mettre en place une protection de leurs monuments. Mais ces lois ne peuvent fonctionner que si ceux qui sont en charge de les faire appliquer en ont les moyens et possèdent une conscience aiguë de leurs responsabilités et de leurs devoirs. Peut-on vraiment dire qu'il en va toujours ainsi? On peut réellement en douter. Des affaires comme celle de la pergola du musée Picasso ou de la clôture vitrée que vient d'installer le palais de la Légion d'honneur démontrent, venant après bien d'autres, qu'il ne sert à rien de classer ou d'inscrire les monuments historiques si n'importe qui peut s'affranchir de ces protections. Dans les deux cas, on a affaire à des monuments classés et se trouvant dans des secteurs sauvegardés. Leur dénaturation devrait donc être impossible. Il suffit pourtant que des organismes d'État officiels veuillent faire n'importe quoi pour qu'ils le puissent. Le musée Picasso veut installer dans son jardin et devant sa façade une structure en fer aussi laide qu'inutile. Il obtient toutes les autorisations. La grande chancellerie de la Légion d'honneur demande à cacher en partie son bâtiment derrière une verrière vitrée qui va le dénaturer. On s'empresse de lui accorder ce qu'elle demande. Cela vient après beaucoup d'autres exemples. La ville de Paris voulant construire un stade sur un site classé, les aires d'Auteuil, ou la Samaritaine souhaitant détruire un îlot entier d'architectures anciennes dans le périmètre d'un monument classé, le Louvre, et au cœur de Paris. À bien y réfléchir, beaucoup de ces scandales récents se déroulent dans la capitale. On peut donc s'interroger sur la manière dont la DRAC Île-de-France gère son activité et si elle n'est pas entièrement soumise aux dictats des politiques. Ceci est d'autant plus grave que ces derniers, une enquête du mensuel Beaux-Arts Magazine le montre bien, sont désormais incultes pour la plupart. Le système semble à bout de souffle. Et s'il faut changer les choses, ce ne sont probablement pas les textes, mais la possibilité de passer outre aussi facilement que s'ils n'existaient pas. Il faudrait donner une véritable indépendance du pouvoir politique à ceux qui prennent les décisions et qui sont chargés de faire appliquer la loi, tout en prenant soin que ceux-ci soient de véritables hommes de l'art, pas des fonctionnaires arrivés là pour on ne sait quelle bonne ou mauvaise raison. Est-il normal que les conservateurs régionaux des monuments historiques, c'est leur titre, puissent assumer la responsabilité qu'il est la leur, sans forcément avoir les compétences d'historien de l'art qu'on attend normalement d'une telle fonction? Poser la question, c'est y répondre. Certains n'ont de conservateurs que le nom. Je me tourne maintenant donc vers Sébastien Allard, directeur du département des peintures du musée du Louvre. D'abord pour savoir comment il est devenu conservateur, comment il est devenu spécialiste du 19e siècle français, et pourquoi, finalement, cette carrière qui a abouti récemment à ce poste très prestigieux de directeur des peintures du Louvre?
Alors, ce sont donc 3 questions. Sur la première, pourquoi je suis devenu conservateur? Alors, c'est une histoire un peu particulière. Enfant, je voulais être conservateur de musée. Et avec mes parents, on allait le dimanche visiter un certain nombre de musées. Et puis ensuite, j'ai fait des études dans un grand lycée parisien et j'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié l'histoire de l'art, être conservateur de musée. J'avais un objectif qui était de passer en Hippocagne, en Cagne, à Normale Sup, ce que j'ai fait. Et arrivé à Normale Sup, où j'ai fait de l'histoire, j'ai cherché un petit peu ma voie parce que je n'avais pas envie de passer l'agrégation. Voilà, je suis allé à Sciences Po, je suis diplômé de Sciences Po, et puis après je me suis dit, c'était mon année de service militaire, mais je n'ai pas trouvé ma voie. Et je me suis ressouvenu à ce moment-là du métier de conservateur, et donc je me suis donné 1 an pour passer le concours que j'ai eu, ce que je ne regrette pas, comme quoi revenir à ses premières ces premiers souvenirs d'enfance est parfois très, très utile. Donc j'ai passé ce concours de conservateur et j'ai eu comme premier poste, j'ai été directeur adjoint du musée de Grenoble où je suis resté pendant un an. Et avant ce poste, j'avais fait mon stage de l'École nationale du patrimoine. À l'époque, ça s'appelait École nationale du patrimoine, au musée du Louvre, au département des peintures. Et finalement, l'atmosphère de cette grande maison, immense, avec aussi toutes ces possibilités d'ouverture. Ça, c'est très important pour le Louvre, toutes ces possibilités d'ouverture vers d'autres départements, d'autres techniques, d'autres périodes m'avaient beaucoup plu. Et lorsque donc Jean-Pierre Cuzin, qui était à l'époque le directeur du département des peintures, a cherché quelqu'un pour s'occuper du récollement, des dépôts du département des peintures, eh bien je me suis présenté, j'ai obtenu ce poste qui a été très très important finalement pendant trois ans et demi. J'ai parcouru certaines régions de France, donc peut-être qu'on reviendra après sur le rôle patrimonial d'un département, d'un grand département comme celui des peintures. Et donc ces trois ans un peu fatigants parce que j'allais trois jours par semaine en région m'a permis de voir aussi les différentes situations de musées en région. À Grenoble, j'étais dans un grand musée avec des vraies infrastructures. Là, j'allais au musée de Doullens, dans d'autres musées. Bon, ça, c'était très bien et ça m'a permis de bien connaître un certain nombre de collections. Et puis, toujours au département des peintures, lorsque Vincent Pomared est devenu le directeur du musée de Lyon, le poste de conservateur de la peinture française du 19e siècle et des grands décors peints du palais, les deux étant couplés à l'époque, je me suis présenté et là aussi c'était toujours Jean-Pierre Cuzin qui m'a nommé à ce poste. Alors là j'étais évidemment dans une situation disons un petit peu plus stable puisque j'avais la responsabilité d'une collection, et quelle collection, c'est une absolument magnifique, une des plus importantes au monde dans le domaine. Donc là, à partir de ce moment, j'ai vraiment construit, disons, un parcours scientifique, une vraie réflexion autour d'un certain nombre d'artistes. Ça a commencé un petit peu par hasard, presque. On m'a demandé une exposition dossier, à peine nommé à ce poste. J'ai fait différentes propositions, dont une exposition, dont vous avez rendu compte d'ailleurs, je crois, sur Dante et Virgile, oui, aux enfers. De Lacroix. Et donc voilà, donc d'un premier amour avec de Lacroix d'une part, et avec un thème de deux thèmes de réflexion scientifique qui m'ont marqué à ce moment-là: le rapport entre les arts et en particulier le rapport entre la peinture et la littérature, la question de la source d'inspiration. Ça, c'était au début, c'était la question de la source d'inspiration qui est devenue ensuite dans une exposition que j'ai réalisée il y a 2 ou 3 ans à Madrid et Barcelone, une monographie sur Delacroix, la question de l'inspiration tout court chez Delacroix, mais chez différents artistes. Et puis, dès cette première exposition, l'autre grand sujet qui est le sujet de la biographie d'artiste. Comment on écrit une biographie d'artiste, qu'est-ce qu'on peut percevoir aujourd'hui de la biographie d'artiste. Il faut dire que je suis d'une génération, notamment pour les études littéraires, où j'ai été éduqué par des structuralistes où l'artiste presque n'existait pas. Et donc avec Dante et Virgile aux enfers, c'était comment on devient un artiste, puisque c'est le premier tableau de Delacroix présenté au salon. Et quelques années plus tard, toujours avec cette idée de qu'est-ce que c'est qu'un artiste, comment on écrit une biographie d'artiste, dans un livre que j'ai coécrit avec Marie-Claude Chaudonneret, je me suis interrogé sur le cas de Gros, comment on termine sa carrière ou comment on la termine pas, puisque Gros se suicide après 15 ans d'un long d'un long périple un petit peu malheureux. Donc voilà, il y avait ces questions-là que j'ai un petit peu tissées, toujours en gardant cet axe à travers différentes publications, expositions, parce qu'il m'a toujours semblé extrêmement important de mener de front des expositions, c'est-à-dire des événements qui ont une durée de vie qui est celle de l'exposition et qui ne sont pas, disons, parfaits, un livre non plus, mais parce que finalement on réunit des œuvres et puis une fois que les œuvres, on écrit des choses avant d'avoir vu les œuvres ensemble, et puis quand elles sont ensemble, quelquefois on se dit ah ben non, là ça marche pas, ou là ça marche, ou j'ai pas vu cette question. Donc lier les expositions et les publications. Donc ça, c'était une chose importante. Donc j'ai fait une exposition sur une monographie sur Delacroix, Dante et Virgile aux Enfers. J'ai fait une exposition avec Robert Rosenblum et Guilhem Scherf sur qui s'appelait Portrait public, portrait privé.
J'ai rendu compte également et que j'ai également aimé.
Bon, bah merci. au Grand Palais, là, c'était entre 1770 et 1830 sur cette question du portrait. Et là, qui m'a beaucoup appris d'ailleurs de travailler avec des spécialistes de sculpture. Donc vous savez, au Louvre, on est dans des départements, donc ça peut apparaître comme extrêmement rigide, on est dans sa spécialité, mais en même temps, si on veut, on peut très facilement ouvrir les portes, ça sera un des grands actes, j'espère, de mon directorat, si je puis dire, de travailler avec les autres départements. Et puis, on m'a aussi sollicité au Louvre pour d'autres expositions plus transversales, voyant ce goût que j'avais pour la transversalité et aussi d'une certaine manière pour l'expérimentation. J'ai participé à l'exposition Babylone, qui était une exposition du département des Antiquités orientales, dont le commissaire général était Béatrice André Salvini, qui m'a demandé si je voulais bien m'occuper de la période moderne, enfin moderne au sens qui va du XVIe au XIXe siècle. Et puis, plus récemment, Henri Loirette m'avait demandé de participer au commissariat, il y avait beaucoup de commissaires, de l'exposition de l'Allemagne qui avait
un petit peu polémique.
Qui avait suscité effectivement.
Je ne m'en avais pas rendu compte pour plusieurs raisons, parce que j'avais mis un peu de temps à la voir et qu'après la polémique était trop prégnante, je n'avais pas vraiment envie d'entrer dans ces polémiques. Mais peut-être que vous voulez en revenir dessus.
Oui, enfin, pas nécessairement. Ce que je peux dire, c'est que cette exposition avait été faite dans le but de célébrer l'amitié franco-allemande, voilà, et qu'elle avait été faite dans l'esprit aussi d'Henri Loirette, dans cette idée qu'il fallait mettre un coup de projecteur sur les écoles, sur l'école allemande, enfin la peinture allemande, parce qu'on voit qu'on a quand même beaucoup de difficultés à acquérir des œuvres quand on les présente dans des commissions, les gens ne connaissent pas, ne connaissent pas les artistes, trouvent que les noms sont compliqués, etc. Donc voilà, on a mis d'ailleurs l'exposition nous a permis d'acquérir un magnifique tableau, quasiment un des très grands chefs-d'œuvre d'un artiste romantique qui s'appelle Heume. Qu'on a pu acquérir.
Très beau tableau,
voilà, grâce à Elisabeth Foucard, qui est le conservateur en charge de la peinture de la peinture allemande. Donc voilà. Donc il y avait si vous voulez, en tant que conservateur, des choses qui se sont construites comme ça. Ça fait 17 ans. Oui, quelque chose comme ça, que je suis au Louvre. Et quand Vincent Pomarède a pris la direction de la médiation, voilà, le poste de chef du département s'est ouvert, et à ce moment-là, j'ai postulé avec ce désir moi-même, puisqu'on est conservateur, j'ai pensé que, étant conservateur, alors que ma carrière, disons, universitaire, m'aurait plutôt poussé vers la voie, disons, de l'université, d'écrire des livres, etc., et que, en fait, si j'ai vraiment voulu être conservateur pour m'occuper des collections dans leur matérialité, mais aussi pour travailler avec des équipes, etc. Il me semblait que c'était le moment pour moi d'évoluer et de mettre au service du Louvre, pour laquelle j'ai une grande affection et une très haute estime, ce que j'avais pu acquérir précédemment, et d'autre part aussi essayer de donner, dans la mesure du possible, une impulsion, enfin ce que je pensais ou ce que je pense qui serait bien pour ce département et ce musée que je connais bien.
Très bien. Alors donc, voilà, vous êtes arrivé à la tête du département des peintures. Est-ce que vous avez, dans l'organisation du département, depuis juin, fait des changements dans les attributions, est-ce que, par exemple, vous parliez tout à l'heure du poste de 19e siècle que vous occupiez, est-ce que vous avez recruté quelqu'un est-ce qu'il y a des changements d'organisation, en fait?
Alors, des changements d'organisation majeurs, pas pour le moment, puisque vous savez que l'organisation des départements est un petit peu, relève de l'établissement. Nous avons trois pôles, un pôle conservation, un pôle documentation et un pôle régie des œuvres. Donc ça, on n'y touche que difficilement. Ce que j'ai fait, donc ça fait 3 mois, hein, donc c'est, voilà.
Donc des vacances.
Je n'ai pris qu'une semaine de
je
vacances.
Pense voilà. Non, c'est quand même plus compliqué dites, de voilà. réagir les choses.
Alors, c'est un petit peu plus compliqué de réagir. Simplement, bon, là, il y a eu des choses très concrètes. J'ai changé beaucoup de monde de bureau. On a remis le département, on a repeint, etc. De façon à améliorer les conditions de travail, parce que je pense que c'est très important. Maintenant, on va véritablement s'attaquer au fond. Le poste de conservateur du 19e siècle vient de paraître, parce que je ne peux pas garder la direction du département. D'ailleurs, c'est pas sain. Et la collection de peinture du 19e siècle, c'est d'ailleurs devenir chef d'un département, directeur d'un département comme le Louvre, c'est aussi faire preuve, je pense, d'une certaine abnégation, puisque ça veut dire, au moins dans un premier temps, de réduire sa production scientifique, d'exposition, de publication, etc., pour essayer de donner le caractère qu'on souhaite donner au département.
Alors, maintenant, sur cette politique du département, des peintures, parlons d'abord des acquisitions. Comme vous savez, c'est un sujet qui intéresse beaucoup la Tribune de l'Art. On parle beaucoup des acquisitions des musées français, mais également internationaux. Alors, une première question, c'est comment combler certains manques, finalement, quand on regarde le département des peintures, de par son histoire, de par les disponibilités du marché, clairement. Mais aussi, de temps en temps, on a l'impression qu'il y a des choses sur le marché qui ne sont pas forcément acquises. Donc, c'est vraiment, il y a des choix à faire. Bon, alors, Van der Goes, Duccio, c'est compliqué.
Oui.
je ne sais même pas s'il y a un Duccio à vendre sur le marché. Van der Goes, c'est à peu près la même chose. Mm-hmm. Mais enfin, bon, c'est peut-être, c'est des choses, c'est quand même des grands noms qui manquent. Velázquez, c'est peut-être un peu plus facile, mais enfin, c'est compliqué aussi. Mais par exemple, les Lombards sont, à mon avis, mal représentés. Basquenis, par exemple, c'est quand même un des
les Lombards du XVIIe siècle.
Les Lombards du XVIIe siècle,
parce que les Lombards du XVIe siècle, au contraire,
oui, tout à fait.
On est une des collections en raison de François Ier.
Oui, vous avez raison, mais les Lombards du XVIIe siècle, c'est mal représenté. Paulsbor, par exemple, n'est pas représenté.
Ouais.
C'est un artiste qui peut se trouver, je pense. Les foyers provinciaux, même en France, même dans la peinture française, les foyers provinciaux, par exemple, Renaud Levieux, je crois, n'est pas représenté. Je crois qu'il y a eu un achat qui a été malheureusement retoqué par la commission des monuments.
Oui.
Voilà, pas par le Louvre. Enfin voilà, la Bohème, les peintres baroques de Bohème ou des choses comme ça. Je crois qu'il y a un Carles Kreta, par exemple, serait intéressant. Je ne sais pas si c'est des choses que vous comptez développer. Voilà. Donc, quelle sera votre politique d'acquisition? À venir. Est-ce que vous avez déjà une idée? Est-ce que c'est vraiment les opportunités du marché? Ou est-ce que vous allez... Bien sûr, les opportunités du marché sont prégnantes, mais est-ce que le reste... est-ce que vous aurez vraiment une ligne directrice?
Alors, là, on a toujours des lignes directrices. En gros, la question que vous me posez est la question de classique. Est-ce qu'on garde son argent pour acquérir des œuvres majeures qui vont venir compléter des collections qu'on a déjà, voilà, ou est-ce qu'on complète des choses qui nous manquent, et notamment des artistes qu'on connaît moins, etc. Je pense que il faut faire un petit peu les deux. Donc, vous allez dire que je ne réponds pas à votre question, parce que, justement, il y a deux éléments.
Je vais répondre à la même chose. Je pense qu'il faut faire les deux.
Je pense qu'il faut faire... Alors, mais simplement, faire les deux est une chose qui n'est pas simple du tout, parce que, finalement, on est... moi aussi, avant d'être chef de département, alors, ça fait que 3 mois, mais je vois bien un peu ce qui se passe, je pensais qu'on pouvait établir des politiques plus facilement. En réalité, c'est extrêmement difficile, parce qu'il faut tenir compte, comme vous le disiez, du marché, de ce qui est disponible... dans certains cas, pour les écoles moins connues, comme les écoles de Bohème, même comme l'Allemagne, etc., il faut faire preuve, il faut, vous savez que les acquisitions passent par des commissions, etc., donc il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie pour expliquer que Hoehm est un grand artiste du romantisme allemand, même si on le connaît pas, parce qu'il n'y en a pas dans les collections françaises, que Basquenis est un grand artiste de l'école italienne, etc., etc. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans une période qu'on pourrait dire quand même de vache maigre, globalement. Et que ce qu'il faut voir aussi, c'est que les acquisitions sont vues à l'échelle, évidemment, du département des peintures, mais aussi à l'échelle du Louvre. Et donc, depuis plusieurs années, et particulièrement ces derniers temps, il y a une solidarité des chefs de département pour, via le collège, pour orienter les acquisitions d'un côté ou d'un autre, plus du côté des objets d'art à certains moments, plus du côté des peintures. La question qui se pose aussi, c'est que quand on voit aussi passer des œuvres très importantes, comme vous le soulignez, de Duccio, ou de, voilà, pas nécessairement là sur le marché, et qui coûtent très très cher, Donc est-ce que ces œuvres très très coûteuses comme un Velázquez, enfin un Velázquez, effectivement il faudrait qu'on ait un Velázquez. La difficulté de qui se pose, par exemple, si je prends le cas de Velázquez, est-ce qu'il faut un Velázquez pour un Velázquez? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut un Velázquez qui se présenterait et qui ne serait pas le plus beau des Velázquez, ou est-ce qu'il faut acquérir le plus beau des Velázquez? Et après, la troisième question qui se pose à partir de ces deux-là, c'est est-ce que le musée du Louvre, je pense que ça devrait être oui, s'il a l'opportunité d'acquérir un très beau Velázquez alors que l'école espagnole, pour des raisons historiques, n'est pas la mieux représentée, est prêt à investir des sommes très importantes pour enrichir cette école avec un tableau qui va rester peut-être un unicum. Vous voyez, donc ce sont des questions qui sont aujourd'hui extrêmement complexes. Et donc, en tant que chef de département, je crois qu'il faut être extrêmement pragmatique, saisir les bonnes opportunités, convaincre les gens de l'intérêt de telle ou telle acquisition sur un... entre guillemets, je ne crois pas que l'adjectif soit juste petit maître. La chose qu'il faut voir aussi aujourd'hui, c'est que les donations, notamment des donations d'œuvres, se raréfient pour des raisons économiques ou aussi pour d'autres raisons. Donc là aussi, je pense que nous avons, au niveau du département, un gros travail, et du Louvre en général, un gros travail à faire envers d'éventuels donateurs, de façon à tisser, retisser des liens privilégiés avec des collectionneurs, avec le marché de l'art, et d'offrir. Et la documentation, d'ailleurs, pourrait être un lieu, une sorte de forum où les gens pourraient se croiser. Et...
Alors, on parlera effectivement de la documentation. Ouais. Sur la donation, il faut peut-être aussi rappeler que les donateurs, ce n'était pas le cas il y a 100 ans ou 50 ans, bénéficient en plus d'avantages.
Oui.
Et donc, ça peut être intéressant. Et je me rappelle, par exemple, à Paris Tableau, il y avait une exposition sur la donation sous réserve d'usufruit.
Absolument.
Qui est une solution très intéressante à la fois pour les musées et pour les donateurs. Alors, c'est un vrai don, parce qu'il y a une partie qui
Absolument.
Est vraiment donnée. Mais une partie de cette donation, est défiscalisable. Et par les temps qui courent, ce n'est pas forcément une mauvaise chose.
C'est bien.
Donc ça, il faut peut-être le faire savoir plus largement, peut-être.
Oui, alors c'est cet effort, effectivement, de pédagogie, et ce qu'on avait fait, l'effort à Paris Tableau sur l'usufruit, mais qui pourrait être aussi sur la dation. Il y avait eu un parcours qui avait été organisé au Louvre autour de l'idée de dation, sont des instruments, effectivement, très importants. Parce qu'il y a différents types de donations. Il y a la donation qui est assortie d'une déduction fiscale, et puis il y a aussi de très généreux donateurs qui donnent des œuvres sans aucune contrepartie. Ça existe aussi.
Oui, bien sûr.
Et ça
arrive, par exemple, des étrangers, etc. Donc,
des étrangers, des Français.
Des Français aussi, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Sur les acquisitions aussi, il y a une question que j'avais posée lors de l'interview que j'avais faite avec Jean-Luc Martinez, donc président du Louvre. Il avait répondu pourquoi pas. Mais est-ce que peut-être que ça dépend des départements qui pourraient les proposer? C'est une exposition, comme il y en avait auparavant, sur les nouvelles acquisitions, les dernières acquisitions des départements, ce qui permet, à mon sens, de faire un bilan réel en voyant réuni tout ce qu'a acheté ou éventuellement en négatif tout ce que n'a pas acheté le département. J'ai vu que le musée d'Orsay, sur lequel j'ai quelques griefs par ailleurs, fait quand même cette exposition. Ça va s'appeler 7 ans de réflexion, donc les 7 ans. Des 7 dernières années d'acquisition, qui est une bonne chose. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez avec laquelle vous envisagez de renouer?
Alors, de façon claire, la programmation des expositions est plutôt aujourd'hui du côté de la médiation, donc du côté de Vincent Pomarède. Mais sur le principe, là je peux vous répondre sur le principe, oui. Ça me semble être une chose qui est tout à fait intéressante et qui est un bon vecteur de communication et pour faire le bilan, comme vous l'avez dit. Alors les expositions telles qu'elles étaient autrefois étaient des expositions, des grandes expositions du hall Napoléon, tout département confondu, ce qui est bien parce que ça permet de voir vraiment tout ce que le Louvre a pu acheter. Après, je ne sais pas si c'est un modèle économique viable aujourd'hui, si ça doit être fait dans les salles. Il y a aussi peut-être un format qui pourrait être, j'invente là, en même temps que je vous parle, si vous voulez, donc ce ne sont pas des choses, ce n'est pas des choses qui sont actées. On pourrait aussi imaginer que on fasse place dans chaque département en même temps dans une salle des points sur les acquisitions qu'on a fait sur les deux, trois. Il faut déterminer une périodicité qui soit viable et qui ait un véritable sens. L'autre chose qu'on pourrait faire aussi, c'est à l'occasion d'une acquisition, d'une donation, une petite exposition autour en la remettant peut-être, expliquer cette acquisition dans un parcours en montrant les expositions qu'on a acquises dans les 20 dernières années, par exemple,
dans ce domaine-là. Alors, c'est vrai, alors, finalement, je constate que finalement, beaucoup de musées ne communiquent pas. Alors, pour moi, c'est très bien parce que ça me permet d'en parler et puis d'avoir des...
On a le bulletin de la recherche.
Excellent, dont je parle régulièrement. Malheureusement, qui n'est pas bien diffusé, il n'est même pas diffusé du tout. Et sur Internet, j'ai vu que le dernier était en ligne, le précédent n'était plus en ligne. Enfin, malheureusement, ça serait pas mal de le mettre
en ligne
pour tout le monde.
Absolument.
Parce qu'effectivement, là, c'est un bilan qui permet... Mais ceci dit, je trouve quand même que rien ne prend place.
Oui, absolument, le contact avec...
Je ne comprends pas en quoi ça pourrait être cher. C'est quand même des tableaux qui appartiennent au Louvre, il suffit... Et puis ça permet de cataloguer également, de cataloguer officiellement, parce que là, c'est pas vraiment un catalogue, le bulletin de la recherche. Donc...
On essaye de les publier dans la Revue des Musées de France, ou dans d'autres, nos acquisitions, parce que ça aussi, c'est important de soutenir les revues savantes. Mais effectivement, vous avez raison, c'était un bon moment, et on faisait vraiment le point sur ce qui avait été fait, et aussi, vous le dites, peut-être qu'on l'a peut-être pas suffisamment fait, on fait peut-être pas suffisamment, mais... La presse est là pour nous le rappeler sur ce qu'on n'a pas fait.
Oui.
Voilà. Alors après,
c'est vrai que on l'a pas fait. C'est toujours difficile.
Pour différentes raisons. Voilà. Oui. On peut peut-être aussi expliquer pourquoi on n'a pas fait telle ou telle chose. On n'a pas pu.
Ouais. Et sur les acquisitions, alors ne me dites pas quelles sont les prochaines acquisitions. Je comprends qu'elles soient tout à fait secrètes. En revanche, ce qui m'inquiète toujours, c'est les trésors nationaux. Est-ce qu'il y a des trésors nationaux que vous craignez de ne pas pouvoir acheter dans les prochains, sans dire lesquels? Et quelle est votre politique par rapport aux trésors nationaux? J'ai parfois l'impression, mais vous allez peut-être me démentir, qu'un trésor national est décidé, donc on va le décider en la date à l'année X, donc on a 30 mois pour les... On a l'impression parfois qu'on attend le dernier moment.
Non. Alors là, c'est ça, c'est ce que vous ne voyez pas. Effectivement, la question des trésors nationaux est une question très importante, peut-être même encore plus importante aujourd'hui. Parce qu'on n'attend pas le dernier moment. Enfin, en tout cas, je ne peux pas vous dire ce qui se passait avant. Je ne crois pas, mais en tout cas, là, j'ai un certain nombre de dossiers sur mon bureau qui ne restent pas sur mon bureau, justement.
D'accord.
Et je pense qu'il faut vraiment pouvoir utiliser ces 30 mois. On mène des négociations assez longues avec un certain nombre de propriétaires ou de leurs mandataires pour essayer éventuellement de gagner un peu de temps, de retirer le certificat. Donc, en fait, ce sont des négociations qui sont assez longues. Peut-être que la situation d'aujourd'hui est un petit peu différente et en raison de la situation économique générale, en raison du fait que l'argent n'est pas facile. Mais vous pouvez peut-être avoir l'impression, ou quelquefois vous voyez des choses sortir, c'est pas parce qu'on a signé le certificat et qu'on ne classe pas Trésor National et qu'on n'achète pas parce qu'on n'a rien fait, c'est simplement qu'on n'y est pas arrivé. L'autre chose que je dois dire aussi, c'est qu'on ne peut pas non plus utiliser la procédure des certificats, des trésors nationaux, etc., n'importe comment.
Je n'avais pas posé cette question, mais je pouvais la poser, c'est-à-dire sur ceux que vous... Parce que c'est vous qui décidez, finalement, de proposer...
À la commission.
Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de refus par rapport à ce que vous proposez, mais on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de trésors nationaux proposés. Et de temps en temps, effectivement, on se pose la question, quand on sait que quelque chose est sorti, de savoir pourquoi c'est sorti et pourquoi ça n'a pas été... Au moins, on n'a pas essayé de le retenir.
Bon. Ça, on ne sait pas. Enfin, moi, je ne le sais pour d'autres domaines qui sont pas...
Oui, mais en tout cas, pour les peintures.
Il y a eu des vrais efforts qui...
Dommage. Par exemple, quand on s'aperçoit, mais là je prends des peintures, j'ai pas d'exemple en tête, et peu importe, c'est pas l'idée de pas de faire le procès de s'attirer d'autres choses, mais de savoir quand, parfois on s'aperçoit qu'un tableau ou une sculpture, ou peu importe, a été autorisé à sortir, on ne sait pas pourquoi elle a été autorisée, alors que pour beaucoup de gens, elle paraît comme un trésor national. Donc ce serait intéressant que ce soit plus évidemment public, plus transparent.
Des raisons sur... Alors après, c'est difficile, parce qu'on peut pas non plus mettre toutes les négociations...
Non, mais une fois que c'est fait, on peut dire... Parce que je sais bien que c'est compliqué.
C'est difficile. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'on n'attend pas, c'est que vraiment, on n'attend pas le dernier moment et que vraiment, on est très sensibilisé sur ces questions-là. J'espère que l'avenir, les prochains mois, les prochaines semaines montreront qu'on a.
Rapidement sur les restaurations.
Oui.
Donc, pareil, quelle est votre politique sur les restaurations? Moi, personnellement, je suis favorable, bien sûr, aux restaurations, et parfois, je m'interroge sur la nécessité de certaines restaurations. Non pas que des tableaux ne peuvent pas être nettoyés et ne peuvent pas apparaître plus mieux après un nettoyage. Personnellement, je fais partie de ceux qui étaient favorables à la restauration de la
Sainte-Anne
de Léonard, et qui pensent que ça s'est bien fait. Et de toute façon, il y avait vraiment un problème de conservation. En revanche, la belle ferronnière, dont on sait qu'elle va être restaurée, pourrait être envoyée. Ça, je ne vous poserai pas la question, parce que je sais que vous pouvez, enfin, ça ne serait pas correct de ma part. Ce n'est pas vous qui décidez cela, mais à Abu Dhabi. On se demande pourquoi cette restauration de la belle ferronnière est nécessaire. Moi, j'ai vu l'exposition de Londres.
Oui.
On voit la belle ferronnière au Louvre, et c'est un tableau qui certainement a des vernis un peu jaunis, certainement, qui est dans son jus, mais qui n'est pas du tout illisible, qui n'a pas, à mon sens, vraiment de problème. D'ailleurs, c'est ce qui est dit aussi, je crois, par le Louvre. Et pourtant, qu'on va restaurer, forcément dans un délai, en revanche, assez rapide, parce qu'il va falloir ensuite l'envoyer là où je disais. Et puis surtout, quelle est la nécessité de la restaurer? Ça va coûter de l'argent, alors qu'il y a d'autres tableaux qui sont peut-être en moins bon état. Et surtout, en plus, on sait que sur les Léonard de Vinci, il y a toujours une technique très complexe. Donc il y a, je ne dis pas que ça va être mal fait, parce qu'en général, le Louvre fait bien les choses, de ce côté-là, je trouve en tout cas. Mais on prend un risque qui me paraît inutile.
Alors, sur la question des restaurations, je n'échappe pas à votre question sur la belle ferronnière, il y a différentes choses. Alors, la question... Il y a l'idée de la détermination d'une politique de restauration, effectivement, qu'il faut que je construise, que j'ai pas encore complètement construite. Je suis d'un naturel extrêmement prudent. Et je pense que ce qui doit un petit peu guider notre perspective, c'est de savoir qu'est-ce qu'on gagne avec une restauration. Est-ce vraiment intéressant? Est-ce que qu'est-ce que ça apporte? Ça paraît être évident, mais on sait qu'on est aujourd'hui dans une mode des restaurations, et on pourrait être pris dans un flux qui fait qu'on restaure pour restaurer. C'est un peu ce que sous-tend un petit peu votre question. Sur la question de la... Donc on va déterminer des programmes. Dans un musée comme le Louvre, la détermination des programmes n'est pas du tout simple, parce qu'on sait bien que lorsqu'on a les tableaux les uns à côté des autres, quand on commence à en restaurer un, tous les autres paraissent... ou celui qui est restauré paraît dénaturé tellement il est restauré, ou les autres... Donc il y a l'idée de collection, qui sera, je pense, un des grands axes de ce que je voudrais faire en tant que directeur du département des peintures, qui doit être prise en compte aussi sur l'idée de la restauration. Alors, sur Léonard, on avait commencé avec la restauration de la Sainte-Anne, et c'est pas pour me défausser, mais c'est mon prédécesseur Vincent Pomarette qui avait décidé de la restauration de la belle ferronnière, en partie parce que il estimait que on avait déjà un peu travaillé sur la Sainte-Anne, que la belle ferronnière était un tableau qui posait des problèmes d'allègement de vernis, etc., qu'on avait déjà rencontré, et que donc c'était probablement un tableau sur lequel on allait pouvoir savoir ce qu'on doit faire. Alors je récupère évidemment le dossier. Une commission internationale, comme la plupart de nos grandes restaurations, a été mise sur pied. Elle se réunit très très bientôt, et donc il y aura une discussion sur ce qu'on va faire. Dans votre exposé, vous dites qu'on l'a fait restaurer pour la prêter ailleurs, à Abu Dhabi ou pas à Abu Dhabi, ou je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, moi je serai assez ferme sur la question, et je pense que mes prédécesseurs avaient cité, on ne restaure pas pour prêter, contrairement à ce qu'on peut voir ici ou là. J'en ai un exemple très concret avec la belle ferronnière. Si vous avez lu la presse italienne, vous avez vu que la belle ferronnière pourrait être prêtée à l'exposition universelle, à la grande monographie consacrée à Léonard que Milan organise à l'occasion de l'exposition universelle. Il a été clairement précisé que la belle ferronnière ne serait prêtée que si la restauration était terminée. Si la restauration n'est pas terminée, l'œuvre ne sera pas prêtée.
D'accord.
Donc, je pense qu'on ne restaure pas, on ne doit pas restaurer pour prêter.
C'est-à-dire que dans beaucoup de restaurations, il y a une date limite, ce qui est toujours un petit peu dangereux, parce qu'il peut y avoir des choses un peu inattendu qui surgissent et qui
obligent. C'est tout le risque. Et je pense que, et sincèrement, d'expérience au musée du Louvre, en tout cas personnellement, j'ai pas eu d'expérience où on a hâté une restauration pour pouvoir favoriser un événement. Voilà. On a une responsabilité qui est très lourde, hein, très très lourde sur la restauration.
Je pense, oui.
Parce
oui,
que,
tout à fait,
voilà.
Oui.
Donc.
Les nouvelles très très brèves.
L'ouverture du Louvre d'Orsay de Versailles 7 jours sur 7, nous l'avons écrit hier dans un éditorial, est à notre avis une mauvaise idée. Parce que c'est méconnaître ce que sont les obligations d'un musée et de ses missions. Et pour ceux qui prétexteraient que cela existe déjà à l'étranger, ce qui est vrai, par exemple au Met, à Boston ou à la National Gallery de Londres, depuis peu, on signera les commentaires que j'ai recueillis sur ma page Facebook de conservateurs étrangers. Un exemple, un conservateur américain nous a dit, je le cite, « La National Gallery de Londres est petite par rapport au Louvre et ne concerne que les tableaux qui sont plus faciles à installer et à désinstaller que les sculptures et les objets d'art. » À Boston, toujours ce même conservateur, il nous dit, si on, il a travaillé à Boston, si on veut changer une peinture, on doit le faire avant 10 heures. Moi, je rappelle que le Louvre est ouvert à 9h, ce qui impliquait de commencer au moins à 7h30, donc 6h30 pour le Louvre. Sinon, on est obligé de fermer une galerie pour la journée. Mais le plus gros problème pour le Louvre, c'est toujours le conservateur américain qui parle, c'est encore que le Louvre n'a pas les coulisses nécessaires pour faire bouger les œuvres. Elles doivent passer par les galeries en enfilade, qui ne peuvent pas être fermées partiellement. Je dispose de beaucoup d'autres témoignages et je reviendrai prochainement dans un second article. Alors, je me retourne vers Sébastien Allard. J'ai bien conscience que c'est une décision politique, donc je ne vais pas lui demander de commenter une décision politique qu'il appliquera évidemment si on lui demande de le faire. Mais quel est votre sentiment sur la difficulté ou non d'ouvrir 7 jours sur 7 ?
Alors, on peut dire que ouvrir sur 7 jours sur 7, c'est évidemment quelque chose qui est difficile, puisque le mardi, on sait bien que le mardi... Pour les conservateurs, c'est le jour, enfin comme vous l'avez, je l'ai lu dans votre article d'hier soir, expliqué, on déplace les œuvres, on fait les examens scientifiques, enfin il y a toute une activité, on ne s'endort pas, le mardi dans le musée, on nettoie les salles, etc., etc. Le Louvre, en fait, avait quand même anticipé, dès qu'on a entendu ce bruit ou cette idée d'ouvrir le Louvre 7 jours sur 7, Jean-Luc Martinez nous a demandé à tous les services, c'est-à-dire non seulement les départements, mais aussi les services, parce que ça a des impacts sur tous les services du Louvre, chacun de réaliser une note pour faire un état des lieux, de savoir très précisément ce qu'on fait, ce qu'on a fait sur un an, les difficultés, ce qui pourrait pas être fait à un autre moment, ce qui au contraire pourrait être fait à un autre moment et comment. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, moi j'en suis dans l'état des lieux et dans essayer de dégager, de voir ce qu'on peut faire, comment on peut le faire.
Suite donc des brèves, à propos de la souscription pour l'atelier de Courbet qui a été lancée hier et dont nous avons fait un article, on nous fait remarquer sur internet, sur Twitter, Facebook, que les particuliers pourront donc donner de l'argent pour sa restauration, mais n'auront pas le droit de le photographier. Nouvelle preuve de l'incohérence de la politique d'Orsay sur ce sujet, qui interdit de photographier des œuvres pour lesquelles on va donner de l'argent. Le projet de loi de finances 2015, tel qu'il est présenté, prévoit une nouvelle baisse du budget du ministère de la Culture, ce qui, une fois de plus, est contraire aux promesses faites, mais on a l'habitude. Il semble en revanche que la mission patrimoine, dont dépendent les musées également, reste stable, ce qui demande encore à être examiné de près, car on sait qu'en matière budgétaire, entre ce qui est dit et la réalité, il y a une marge. Une stabilisation ne serait de toute façon qu'un pis-aller, tant les coupes des deux dernières années ont été importantes dans un domaine où François Hollande promettait une sanctuarisation, entre guillemets. Je me retourne à nouveau vers Sébastien Allard, et parlons maintenant des expositions.
Oui.
Donc, dans l'interview de Jean-Luc Martinez, nous avons parlé déjà de certaines expositions, nous avons reçu également, je ne sais plus quel invité nous parlait également de l'exposition Poussin.
Oui.
Donc, en gros, quelles sont les prochaines expositions? Rappelez-les-nous. Et dites-nous ce que vous souhaiteriez vous-même développer en termes d'exposition, sachant que, à mon avis, le Louvre est justement un des musées qui a encore une politique d'exposition avec des vraies expositions scientifiques et des vrais catalogues. J'espère que vous allez continuer dans cette voie-là. Je pense que c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure quand vous disiez lier les expositions aux publications.
Absolument. Alors ça, c'est vraiment... je crois que c'est une chose extrêmement importante, cette question des expositions scientifiques et des publications, en gros des catalogues qui ne deviennent pas des livres d'images. Alors, les prochaines expos du département, enfin qui vont être organisées par le département des peintures, on va avoir un printemps 2015 qui va être assez riche puisqu'on aura en même temps, dans les espaces Napoléon sous la pyramide, l'exposition à laquelle vous faisiez allusion, Poussin et le Sacré, dont les commissaires sont Nicolas Milovanovitch et Michael Santo, donc une collaboration entre les musées et l'université. Donc ça, c'est aborder, disons, une monographie, mais sous un angle particulier qui est celui du sacré auquel on ne s'attend pas et qui est même, une chose un petit peu originale. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord. Donc là, on a vraiment un vrai projet très scientifique avec des œuvres exceptionnelles, dont certaines qui n'ont jamais été montrées. Et puis, quasiment au même moment, au Grand Palais, Guillaume Kins, qui est le conservateur s'occupant de la peinture espagnole, est le commissaire d'une grande exposition sur Velázquez, mais là aussi avec une problématique bien particulière, c'est-à-dire une monographie sur Velázquez avec des œuvres très très importantes de Velázquez, mais aussi on essaye de déborder un peu le cadre de la monographie pour voir ceux qui ont gravité autour de Velázquez. Donc là, je pense que ça sera une double découverte pour le public qui n'a pas beaucoup l'occasion de voir des Velázquez. Vous suggériez tout à l'heure d'acquérir des Velázquez, donc ça serait bien. Peut-être que ça va nous...
C'est un des noms qui revient fréquemment, voilà, Pierre Rosenberg le cite tout le temps, enfin... C'est presque le nom mythique.
Parce que c'est un nom, et je crois que Guillaume doit organiser aussi un colloque, sans trop déflorer, où cette question des Velázquez manqués sera... Il souhaiterait aborder cette question. Ensuite... un petit peu plus tard, il y aura deux expositions. Il va y avoir une saison autour du XVIIIe siècle avec un autre conservateur du département, Guillaume Farou, qui va réaliser, qui va être le commissaire d'une exposition au musée du Luxembourg autour de, qui s'appelle Fragonard amoureux, autour de Fragonard et l'érotisme. Et puis quelques mois plus tard, au Louvre, là, sous la pyramide, une monographie autour d'Hubert Robert.
Donc, c'est ce que effectivement Jean-Louis Martinez nous parlait de saison, en fait. Hein,
voilà, une saison autour du XVIIIe siècle, qui devrait à peu près correspondre à un moment où on doit repeindre, remettre en état, refaire la médiation des salles de peinture françaises du 17e. Donc j'espère qu'on va pouvoir les réouvrir, puisqu'une partie est toujours en travaux.
C'est
un de mes objectifs.
Enfin, avec un tableau qu'on n'a jamais vu, que j'aimerais vraiment beaucoup voir, que je vois que la restauration est finie, c'est l'aveuglement des habitants de Sodome, de Laurent de la Hire.
Qui, pour l'instant, on est en train de...
Je l'ai vu en restauration, c'est une œuvre... Absolument.
C'est une œuvre
qui a été acquise il y a quand même presque 15 ans.
Il y a eu un peu moins. Restauré. On est en train de réaliser un cadre à partir d'éléments de boiserie qui sont très beaux et qui sera évidemment présenté. Donc on rénove les salles 17, 18, 19. Enfin, j'avais commencé déjà à rénover les salles autour de Corot, mais une rénovation générale et un plan de médiation pour le public. Et puis en 2017. Une exposition autour de Vermeer et la scène de genre en Hollande, qui elle-même ouvrirait, là aussi il y aurait une saison hollandaise au moment où on aurait en partie fait des travaux dans les salles de peinture flamande et hollandaise, puisqu'on doit refaire des climatisations.
D'accord. Et alors, ultérieurement, est-ce que vous avez des idées, peut-être sans les donner, peut-être c'est peut-être trop tôt, mais des axes, des monographies, par exemple, il y a un artiste, par exemple, dont on parle depuis très longtemps pour une exposition au Grand Palais. Alors, il paraît que le livre existe, c'est Pierre Mignard, quand même un des grands artistes du XVIIe siècle, pour lequel on aimerait avoir une exposition. Est-ce que ces monographies, donc, vont effectivement, donc vous nous avez parlé de Velázquez, mais des monographies sur des peintres français, on a l'impression parfois que, par exemple, la peinture du XVIe siècle, les grandes expositions de peinture du XVIIe siècle français, alors là, vous avez Poussin, mais on est encore dans un grand nom. De temps en temps, des artistes un peu moins connus sont finalement réservés au musée de province, mais parfois, c'est plus intéressant que certaines grandes monographies sur des noms très connus. Est-ce que ça, c'est des choses que vous aimeriez développer? Je sais que l'ancien président du Louvre, Henri Loirette, n'était pas trop favorable à cela. Enfin, je crois, en tout cas, ne pas me tromper en disant cela. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez développer?
Alors, effectivement, là, pour l'instant, nous sommes dans une programmation. En fait, la programmation, la cohérence...
Vous héritez d'une programmation, finalement.
En partie, voilà. Et donc, avec des espaces qui seront recréés, réaménagés, ça sera à partir de 2017. Donc évidemment, une programmation se fait aussi avec des espaces qui sont ceux du Louvre, qui peuvent être ceux du Grand Palais, qui peuvent être un certain nombre de musées en région, en collaboration avec un certain nombre de musées en région. Et effectivement, je pense qu'il faut une programmation avec, bien évidemment, des grands artistes sur lesquels, enfin, ou des artistes très connus, parce que j'aime pas le mot grand et petit, mais des artistes plus connus sur lesquels on peut faire le point. Alors là, vous voyez que dans le Poussin Velázquez, il y a un angle d'attaque, il y a une vraie, vraie problématique.
Évidemment, pas de reproche, j'attends avec impatience de voir ces deux expositions.
Je pense qu'elles vont être... Voilà. Je ne vais pas prêcher pour ma paroisse.
Mais voilà. En tout cas, on attend avec impatience ces expositions. Mais c'est vrai que de temps en temps, on a aussi envie de découvrir des choses un peu moins.
Et alors, normalement, on devrait aussi co-organiser avec le Metropolitan Exposition autour de Valentin.
Donc,
qui est un artiste extraordinaire. Donc, l'idée, ça va être de trouver. Alors, je ne vais pas avancer, puis c'est un travail collectif aussi, une sorte d'équilibre entre les grandes monographies, les monographies sous un angle particulier, et quand même des expositions transversales qui remettent les choses en contexte. Il y a aussi un type d'exposition auquel je tiens beaucoup et auquel les conservateurs du département tiennent beaucoup, qui sont les expositions dossiers. Autour d'une œuvre.
Oui, c'est passionnant, ça.
Et vraiment, là, en plus, il y a un moment, je me disais, je voudrais faire des petites expositions dossiers parce que le conservateur s'amuse, creuse. On a vraiment l'impression d'approfondir un sujet. C'est le lien avec les collections. Puis on me demandait toujours des grandes expositions. Et c'est pas le même type de travail. Et c'est bien, voilà, d'alterner un petit peu les deux. Mais les dossiers sont aussi
des expositions très importantes.
Avec des petits catalogues.
Parce qu'actuellement, a ouvert hier une très jolie exposition que j'encourage tout le monde à aller voir au Petit Palais, qui fait un grand travail, un beau travail.
Oui, très beau
malheureusement,
travail.
C'est une exposition sur un tableau redécouvert de Claude Guyallet, et malheureusement, il n'y a pas de catalogue.
Moi, je tiens beaucoup à ce que, je ne suis pas le seul à décider, mais je crois que c'est l'avis général, à ce que tous ces événements, toutes ces expositions soient accompagnés d'une publication qui justifie. Le fait qu'on fasse venir d'autres œuvres et qui explique au public, parce que l'expo a un temps.
Sur les publications, je sais que il y a Stéphane Loire, par exemple, prépare
absolument.
Le catalogue des peintures italiennes du XVIIIe siècle.
Oui.
Donc ça, c'est quelque chose qui devrait paraître dans
il me semble que c'est l'année prochaine ou
donc,
voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres travaux fondamentaux du département en dehors des expositions
qui
sont en cours?
Alors il y a un certain nombre de travaux de fond parce que en parlant avec les conservateurs, on tient à ce qui est effectivement les événements, mais aussi ces travaux de fond. Donc il y a un certain nombre de catalogues. Moi, j'ai un catalogue sur le feu qui est le catalogue de la Croix du Louvre.
Vous avez le temps encore maintenant?
J'ai pas mal accumulé, donc il y a une bibliographie qui est importante, donc il y a des peintures. Il y a Nicolas Milovanovic et Bénédicte Gadi qui travaillent à un projet autour des catalogues autour de Lebrun. Il y a Stéphane Noir qui a fait ce travail très important de catalogue raisonné des collections italiennes et qui arrive maintenant au catalogue de l'Italie du XVIIIe siècle. Donc voilà,
est-ce que Lebrun, ça donnera lieu à une exposition?
Parce qu'il y en a une, on verra.
60,
61, ça serait bien. Il y a des choses.
Avec un catalogue qui paraît chez Artena, si je ne me trompe pas. Le catalogue Milovanovic, Bénédicte Gadi, je crois qu'il est édité chez Artena.
Oui, ça, je ne peux pas vous dire. Là,
je
parce
crois
que c'est,
si,
voilà,
je
c'est pour. Mais ça serait bien.
Très bien. J'avais un petit doute sur le fait que l'émission était écoutable en direct parce que j'avais. Et en fait, c'est oui, tout à fait, ça fonctionne. Et je le sais grâce à Twitter. Alors, une question Twitter, c'est sur les. Quelqu'un nous a posé tout à l'heure la question. Est-ce que. Alors, je vous le dis, pourra-t-il, nous faire plaisir en ordonnant le déplacement des 4 saisons de Poussin du couloir où elles sont exposées? Alors, je veux dire qu'elles ne sont plus dans la rotonde. Apparemment, ça n'a pas.
Alors, oui, normal. Enfin, oui, je ne sais pas. Ce qui va se passer, c'est que normalement, on va mener un plan de réaccrochage complet des peintures françaises qui sont présentées au deuxième étage de Sully, en l'occurrence les peintures françaises commençant en Richelieu, disons le bout Richelieu et le bout Sully, et on va voir effectivement comment on accroche Poussin,
D'accord.
Donc ça c'est donc
en cours de raccrochage. Alors.
Enfin en cours.
Oui.
Là en ce moment comme il y a des travaux qui ont été faits pour
des ces travaux qui ont fermé une partie des salles.
Qui ont fermé une partie du parcours.
Et donc vous pensez qu'il rouvrira quand ce parcours? Parce que ça c'est vrai qu'on l'attend depuis
Fin 2015, début 2016.
Voilà. Donc, ça me remet patience encore.
Oui mais vous savez c'est long, il faut.
C'est bien.
Repeindre.
Non, mais il y a eu des problèmes en plus avec les travaux qui ont été, qu'il y a eu des petits soucis sur les travaux, si je ne me trompe pas.
Pas de ce côté-là, mais il faut faire des évacuations. Enfin, là, ce sont des travaux d'une mise aux normes.
D'accord.
Travaux de mise aux normes.
D'accord. Très bien.
La revue de presse.
S'il fallait une meilleure illustration de notre chronique. En voici une, la chronique que nous avons lue tout à l'heure. Un maire breton veut détruire sa mairie, un bel édifice des années 30 que la DRAC s'apprête à qualifier de patrimoine du XXe siècle. Donc c'est la mairie de Plumeliou. Et pourtant, le conservateur régional de cette même DRAC affirme à l'Ouest France, c'est un bâtiment intéressant, on l'a d'ailleurs dit au maire, mais après, il décide. Il prend ses responsabilités et on ne peut pas s'y opposer. Mais dans quel monde vit-on si la DRAC ne peut pas s'opposer à la destruction d'un monument, par exemple en le protégeant? J'affertis la DRAC qu'elle a le pouvoir de protéger un monument historique. Mais encore faut-il le vouloir, avoir la possibilité de contrer un politique. On est une fois de plus dans cette lutte, finalement, entre des politiques qui veulent pouvoir faire ce qu'ils veulent, y compris détruire du patrimoine, qu'ils devraient transmettre à nos successeurs, et une DRAC qui, normalement, est là pour le faire. Donc voilà, nous renvoyons à l'article de Ouest France et à la pétition, une de plus, lancée pour sauver la mairie. Ça sera sur la page de l'émission. Nous irons demain à Toulouse voir l'exposition Benjamin Constant. En attendant, on peut lire dans la Dépêche un article assez documenté, je ne sais pas s'il est juste ou pas, mais je renvoie, c'est d'une revue de presse, sur la culture à Toulouse, au titre un petit peu provocateur, « La culture est-elle sacrifiée à Toulouse ?» Point d'interrogation, c'est dans la Dépêche et le lien sera sur la page de l'émission. Je me retourne à nouveau vers donc la revue de presse très courte, mais il est vrai que je préfère donner la parole à mon invité plutôt que de
Merci.
Donner des... C'est plus intéressant que de donner des liens vers d'autres articles. Je me retourne vers vous pour la documentation. Alors, la documentation de peinture, j'en avais parlé avec Jean-Luc Martinez également, et il me semble en tout cas très conscient de l'importance d'une documentation. Moi, j'avoue que je me servais beaucoup de la documentation des peintures. J'ai un peu l'impression que depuis quelques années, elle est en friche et qu'il n'y a plus personne qui découpe, il y avait des gens qui découpaient. Et j'ai l'impression qu'on veut remplacer ça par Internet. Je suis le premier à dire les bienfaits d'Internet, je ne serais pas là sinon. Mais il me semble que sur Internet, il n'y a pas tout. Et qu'une documentation papier, celle du Louvre, est exceptionnelle. Elle est importante pour tout le monde. Et que finalement, elle n'est pas mise à jour comme elle le devrait. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou non ?
Alors merci de le dire, de dire l'importance de cette documentation. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. La documentation doit être... Enfin, un travail a été fait. Vous avez eu l'impression que la documentation n'était pas complètement... était un petit peu en friche. Il s'agissait essentiellement de la documentation générale, sachant que les dossiers d'œuvres du Louvre ont continué à être alimentés, qui avaient été, pour des raisons de place... problème de manque d'espace un peu ralenti. Alors moi je pense que la documentation est la documentation papier, finalement cette documentation du Louvre qui est vraiment exceptionnelle.
Elle est exceptionnelle,
non seulement qui est l'une des plus importantes au monde, enfin
oui,
on peut
oui.
le dire, et dans lequel le département s'est très très lourdement investi depuis 40 ans, notamment avec le travail de Jacques Foucard qui a été tout à fait capital pour cette documentation. Elle est très importante, oui, je reprends le fil de ce que je disais, elle est très importante non seulement en quantité mais aussi par sa nature même. C'est-à-dire qu'on a une documentation qui n'est pas seulement une photothèque, où il y a des documents, où il y a des choses qui relèvent, enfin, entre l'archive, le document, la photo, et donc elle est d'une richesse exceptionnelle. Et alors là, c'est vraiment un des grands axes, puisque vous savez que pour postuler pour les postes aujourd'hui, on doit soumettre un projet d'une 30 ou 40 pages, et puis on a un jury. La documentation était au centre de mes préoccupations, parce que je pense que Internet, la numérisation, etc., c'est bien, mais c'est tout à fait insuffisant.
C'est complémentaire. Et il y a des choses qu'on ne trouve dans la documentation qu'on ne trouve pas sur Internet.
Alors l'idée,
on ne trouvera jamais sur Internet. À moins que vous numérisiez toute la documentation.
Oui, c'est impossible. En termes humains et en termes financiers, c'est impossible. Et encore, je ne suis même pas sûr que quelquefois on a besoin de voir la documentation papier, et puis on peut
Bien
avoir
sûr,
des dédiés. Alors là, on va recruter un chef ou une chef de la documentation, et on va essayer de remettre de donner une impulsion nouvelle à cette documentation qui ne fera pas l'impasse sur les nouvelles technologies, mais qui essaiera de souligner vraiment cette importance du papier, de faire revenir aussi une partie du public.
Parce que quand on y va, il y a moins en moins de monde. Alors s'il y a moins en moins de monde, ça finit par on va dire ça sert à rien, vous voyez ce que c'est un
message. Absolument, c'est-à-dire que effectivement on a une fréquentation qui a baissé comme dans toutes les documentations, et je pense que il faut être de nouveau missionnaire, si je puis dire, pour aller, parce que je vois même, moi je suis étonné, je vois même des étudiants qui n'en connaissent pas l'existence.
Prenons un exemple, moi je m'intéresse beaucoup à la peinture du 19e siècle, religieuse du 19e siècle, c'est ce que je collectionne, et j'aimais bien aller à la documentation pour voir les boîtes anonymes, et de temps en temps trouver des choses qui étaient attribuable. La boîte anonyme du 19e, je pense, ou peinture sujet religieux, je pense qu'elle n'est plus mise à jour. Enfin, il n'y a plus de nouveautés. Donc, rien que ça me faisait aller à la documentation, je ne sais pas, moi, tous les mois, pour voir ce qu'il y avait de nouveau.
Alors, on va essayer de répondre enfin, on va essayer avec les moyens qu'on a, on va essayer de répondre à votre demande parce que je pense que c'est essentiel.
Et donc, je m'engage à faire la publicité de cette documentation pour que les gens y retournent parce qu'elle est exceptionnelle même comme elle est, hein, parce que faut
dire, ah non, mais c'est choses, ouais, absolument. Alors, il y a aussi le fait que, moi, ce que je me disais aussi, c'est que cette bibliothèque est ouverte au public l'après-midi, fermé le matin, que c'est un lieu aussi où on peut faire des séminaires avec des étudiants, etc., où les conservateurs peuvent présenter, notamment vis-à-vis des étudiants, des jeunes générations, des jeunes chercheurs, le travail qu'on fait de façon à réhabituer, habituer, à faire vivre et venir les gens.
Alors passons à un autre sujet, la collaboration avec les musées de région et le rôle du grand département. Alors, vous l'avez rappelé, vous êtes grand département. Rappelez-nous ce que c'est qu'un, dites-nous ce que c'est qu'un grand département et comment vous pouvez aider les musées de région qui parfois sont isolés et ne savent pas forcément qu'une œuvre va passer en vente et qu'ils peuvent l'acheter ou bien ont parfois besoin d'aide parce que y a le Louvre a des moyens qu'ils n'ont pas forcément.
Oui, alors la question de grand département, en fait là vous l'entendez au sens large, c'est-à-dire pas au sens seulement juridique avec les certificats, etc.
Oui, alors on peut parler de ça aussi, c'est vrai que vous avez ce rôle, on en a parlé, de décider, enfin de demander ou non qu'une œuvre puisse ou non sortir de France. Je pense qu'il y a d'autres demandes pour les acquisitions également.
Oui,
vous donner votre avis pour les acquisitions des musées. Alors, de temps en temps, je connais que certains de vos collègues, je ne donnerai pas de nom, qui sont un peu, des fois, se sentent un petit peu infantilisés d'être obligés de demander des l'avis pour des œuvres dont ils sont certains et ils sont conservateurs aussi, qu'elles sont importantes.
C'est un peu, en fait, c'est un peu, voilà, tout est dans la discussion et dans le. Je pense pas que les avis soient donnés, enfin, en tout cas, par le département de façon infantilisante. Enfin, en tout cas, c'est
infantilisant, c'est le terme de ma part.
Oui, c'est
peut-être pas le bon terme, hein, mais ils se sentent de temps en temps un peu brimés. Entre guillemets.
Oui, c'est possible. Ça, c'est un fonctionnement. On essaye, en tout cas, de rédiger les avis de façon tout à fait objective et en prenant aussi, parce que c'est ça aussi qui est difficile, en prenant conscience des difficultés locales ou voilà.
Ça peut les aider beaucoup, par exemple, quand si un maire veut faire acheter une œuvre d'un artiste qui est de sa famille.
Voilà, ça ne m'est jamais arrivé, mais on peut s'imaginer que ça pourrait arriver. Mais si on conçoit le grand département dans les relations du Louvre avec les musées en région, alors ça, c'est un des grands axes de la politique de Jean-Luc Martinez. C'est une chose qu'on fait, qu'il va falloir peut-être dynamiser un petit peu plus, mais qu'on fait depuis de tout temps dans les avis. On a de nombreux échanges avec des collègues. Alors, ce que je pense, c'est qu'il faut peut-être aussi un petit peu rationaliser ce qu'on fait, voir quels sont les musées qu'on aide beaucoup, ceux que, parce qu'on n'a pas le temps, pour des raisons diverses et variées, on laisse un peu, on n'aide pas beaucoup. La manière aussi, parce qu'il y a aussi la manière dont on le fait, de façon pas à apparaître comme le colonisateur, en quelque sorte. Et je vois que ces derniers temps, on a eu un certain nombre d'opérations qui ont été très, qui me semblent efficaces. On a eu, par exemple, on a accompagné la réouverture du musée de Valence.
Oui,
très belle réouverture.
Avec les tableaux anglais.
Avec les tableaux anglais qui ont très très bien marché. Je crois qu'il y a eu 25 000 visiteurs, ce qui est beaucoup pour Valence. Ensuite, effectivement, comme on a vu le travail remarquable d'Hélène Moulin, il y aura quelques dépôts qui seront faits autour du paysage, puisqu'il y a un musée avec ce thème, probablement à Valence. On a un partenariat avec Langres autour de Diderot, où on met en dépôt pendant 2 ans, 3 ans,
enfin,
après. Maison des Lumières, absolument.
Enfin, maison, c'est un musée des Lumières, musée Diderot. Où je suis allé d'ailleurs, et je n'en ai malheureusement pas parlé sur le site, c'est le genre de. Des fois, on n'a pas le temps de faire. C'est une initiative intéressante parce qu'il y a de belles œuvres et que c'est une chose tout à fait nouvelle.
En fait. Absolument. En fait, là, on a le musée du Petit Palais depuis très très longtemps, là, qui était à Avignon, une création de Michel Laclotte, où il y a de grands dépôts de la collection Campana qui est spécialisée dans les primitifs, surtout italiens. Alors, si c'est les différents vecteurs, effectivement, de la politique territoriale du Louvre, c'est les expositions, l'aide scientifique. On informe. Globalement, les conservateurs essayent d'informer quand on voit des œuvres passer qu'on ne peut pas acheter ou qu'on trouve, dont on trouve qu'elles seraient bien dans tel ou tel lieu. Bien souvent, on le signale au musée en région avec les difficultés économiques qu'on connaît. Et puis, il y a aussi comme levier, évidemment, les prêts aux expositions et la politique de dépôt. Alors là, cette politique de dépôt est importante, mais moi, je pense qu'il faudrait la réorienter autour de vrais projets. c'est-à-dire peut-être des prêts de longue durée comme ce qu'on fait à Langres ou comme ce qu'on pourrait faire dans d'autres musées autour d'un projet. Et là, on aiderait un certain nombre de musées. Certains sont déjà venus me voir avec des
projets.
Est-ce
qu'il ne faudrait pas, vous avez droit à un joker, parce que l'affaire est un petit peu politique également, mais pour certains musées, et je prendrai l'exemple du musée Calvet, du musée, pas du Calvet, du musée, excusez-moi, du musée Granet d'Aix-en-Provence, sur lequel j'ai beaucoup de critiques sur sa politique, qui a des grands dépôts du Louvre, des dépôts très importants, qu'il ne montre pas. Les musées où Saint-Étienne, par exemple, qui a des dépôts très importants du département des peintures, et qu'il ne montre pas, et qu'il ne montrera probablement jamais. Est-ce que des tableaux déposés par le Louvre, qui ne sont jamais montrés, on n'aurait pas intérêt à les donner à des musées, à les déposer dans des musées qui les montreront ?
Alors, il y a différentes questions. Il faut voir si les tableaux sont affectés ou pas aux villes.
Non, ils ne sont pas encore affectés. Voilà, ceux-ci ne sont pas
alors, affectés. On a une politique de...
j'espère qu'ils ne seront pas. C'est-à-dire que les tableaux qui ne sont pas exposés, j'espère que vous ne les affecterez pas.
Alors, on a une politique, effectivement, on a une... Enfin, ce n'est pas vraiment une politique, mais oui, de retour de dépôts et de, si je puis dire, de réorientation, redistribution de dépôts. Encore récemment, avec un musée en région, j'ai proposé un grand dépôt qui arrivait, une peinture romantique, de grand format qui arrivait d'un autre musée qu'on a nous restauré et qu'on propose pour compléter la collection de tel ou tel musée. Je pense que par exemple dans le musée au musée de Valence, j'ai proposé à Hélène Moulin une œuvre dont un autre musée n'avait plus besoin qu'on a restauré. Voilà.
Donc, ou alors éventuellement des tableaux que vous avez vous-même en réserve que vous ne pourrez pas forcément exposer parce que
absolument. Mais sans
les tableaux roulés, vous avez des tableaux roulés, ça. C'est une chose dont on pourrait parler également. Les tableaux roulés, est-ce que vous avez une politique de déroulement de grands tableaux,
alors,
comme le font certains musées de province d'ailleurs?
Les tableaux, on a déroulé et restauré déjà un certain nombre de grands formats. Le problème de mettre en dépôt des grands tableaux roulés nécessite...
Après les avoir déroulés, bien sûr.
Après les avoir déroulés. Souvent, ce sont des crédits extrêmement lourds pour les musées de province. Alors, il y a des musées comme Amiens où il y a cette politique dynamique et vraiment de présentation, de restauration de ces tableaux. Après, nous, les tableaux qui sont en réserve, on en dépose un certain nombre de tableaux qui sont dans nos réserves. Et il y en a qui ont besoin de restauration quelquefois. Nous restaurons, nous déposons, ou des prêts de longue durée. Mais quelquefois, la restauration est un coût trop important pour une ville en région. Sachant là aussi que je pense que les dépôts doivent être raisonnés. C'est-à-dire qu'on ne va pas redéplacer des collections si c'est pour qu'elles se retrouvent dans 10 ans non présentées ou qu'elles nous reviennent dans 10 ans.
Livre.
Des livres reçus, donc. Des livres, ce ne sont pas des critiques, puisque nous n'en avons pas encore lu. Mais certains nous paraissent particulièrement intéressants. De toute façon, nous les signalons dans l'ouvrage reçu, nous les signalons ici. Pour certains, nous en ferons un article, et pour certains, nous regrettons de ne pas pouvoir en faire un article. Donc, j'espère que nous pourrons le faire sur Sculpté au XVIIIe siècle, Jean-Baptiste Pigalle, de Nicolas Clément, chez Honoré Champion, avec une préface de Jean-René Gabory. J'ai un peu feuilleté ça. Alors, vous parlez des biographies d'artistes. C'est une biographie, mais qui s'attache également aux œuvres, à la vie du sculpteur. Je pense que ça va être un ouvrage, Jean-René Gabory n'est pas n'importe qui, donc s'il l'a préfacé, je pense que c'est un ouvrage qui sera vraiment indispensable aux amateurs de sculpture du XVIIIe siècle. Le catalogue, alors il paraît un petit peu après l'exposition, mais ce n'est pas très grave parce que c'est un ouvrage de fond. C'est le catalogue des dessins français des XVIe et XVIIe siècle du Musée des Beaux-Arts de Rennes. Un catalogue fait par Guillaume Caseroni, qui a une activité débordante dans ce musée. J'en parlerai, c'est un catalogue, je veux dire que je pense que je vais en dire du bien, parce qu'a priori c'est le catalogue comme on les aime, avec scientifiques, avec des notices, des bonnes photos, tout ce qu'on veut.
Que voilà. Le Louvre continue à faire.
Pardon ?
Exactement,
c'est ce que je disais, c'est-à-dire que le Louvre continue à faire, voilà. J'ai toujours souligné la qualité des éditions du Louvre, qui me paraît importante, je sais parfois être critique, mais quand les choses me plaisent, je sais aussi le dire largement, et c'est vrai que les catalogues du Louvre, les éditions du Louvre, les expositions du Louvre sont conformes à ce qu'on peut attendre d'un musée tel que le Louvre. Enfin, franchement, il n'y a aucun problème. D'autres livres, alors un petit catalogue plus sommaire, là, nettement, mais enfin qui a l'avantage d'exister. Ce sont les aquarelles et la vie de Pierre Puvis-Chavannes, une petite exposition qui a eu lieu pendant très peu de temps, et pour lequel un petit catalogue, ce sont des choses, des aquarelles et la vie de Pierre Puvis-Chavannes, pas forcément très connues. Donc c'est une exposition qui avait eu lieu dans la salle d'Hauteville à la Biennale de Cuiseaux. En septembre, voilà, pendant 16 jours en septembre, c'est, ça existe. Paul Durand-Ruel, Les mémoires du marchand des impressionnistes. Donc c'est une édition corrigée et annotée par les descendants hein, de Paul Durand-Ruel, Paul-Louis Durand-Ruel et Flavie Durand-Ruel, chez Flammarion. C'est forcément les mémoires de Durand-Ruel, quelque chose qui doit être passionnant à lire. Je prends également un ouvrage qui s'appelle « Le désir et les dieux », un ouvrage sur la peinture érotique, très sage, je dois dire, qui est dû à une préface d'Yves Bonnefoy, avec des textes de Françoise Frontizy-Ducroux et de Jérôme Delaplanche, aux éditions Flammarion également. Ensuite, un petit ouvrage qui m'avait échappé, j'en ferai certainement une brève, on l'a reçu il y a quelques temps, c'est « 20 ans d'acquisition du musée d'Aquitaine ». J'aime beaucoup quand on publie ces acquisitions, donc j'en dirai un mot. Et enfin, une revue, une nouvelle revue qui vient de sortir, « Sculpture, études sur la sculpture 19e-21e siècle ». Donc c'est très très spécialisé, puisque c'est la sculpture de l'époque moderne. C'est édité par les presses universitaires de Rouen, et la direction de la rédaction est confiée à Claire Mingon, maître de conférence en histoire de l'art contemporain à l'Université de Rouen, avec un comité scientifique où il y a tous les spécialistes de la sculpture du XIXe siècle, dont Antoinette Lenormand-Romain, Claire Barbillon, Catherine Chevillot, etc. Voilà, donc c'est une revue, c'est pas toujours facile de publier des revues scientifiques. Voilà une dont nous donnerons bien sûr le sommaire sur la Tribune de l'Art. Il y avait beaucoup d'autres sujets finalement que j'aurais aimé aborder. Votre activité d'historien de l'art, alors vous nous avez dit que vous prépariez le catalogue de la Croix du Louvre. Est-ce qu'en deux mots, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous préparez si vous avez le temps de le faire?
Pour le moment, je n'ai pas le temps. Donc ce sont après des projets un petit peu plus lointains, mais pour l'instant, au moins jusqu'en décembre, je me consacre exclusivement au département. Mais je crois que c'est important que le directeur du département ait continué à avoir une activité scientifique, publication, exposition. Pour ne pas décrocher et pour être bien au niveau auquel on attend qu'il soit. Enfin, j'espère.
Et merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission. La semaine prochaine, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission parce qu'il y a un colloque de 3 jours à Compiègne sur l'authenticité dans les châteaux. C'est un sujet, comme vous le savez, qui nous intéresse beaucoup. On fera une recension de ce colloque sur la Tribune de l'Art. Rendez-vous donc dans 2 semaines avec un invité qui n'est pas encore défini, mais que donc vous donnerons la primeur sur la Tribune de l'Art. À bientôt, merci. Au revoir.